juillet, nous avons médité ensemble le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et nous avions posé cette question, trouver quelques caractères actuels d'un ministère chrétien, puisque nous sommes de ceux qui croient que la figure de ce monde passe, comme le dit l'apôtre Jean, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Nous croyons que elle est vraie encore dans ses instructions pour nous aujourd'hui. Alors, nous voulons demander au Seigneur ce que réclamait le prophète Jérémie. Ô Dieu, que ta grâce nous soit donnée et que ce matin encore, nous puissions faire ensemble l'expérience que nous avons de la joie en ta parole et que nous y trouvons un grand butin. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. En Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous procéderons peut-être d'une façon un peu différente des autres jours et nous commencerons par écouter les réponses que vous avez pu donner à cette question. Avez-vous pu trouver quelques caractères actuels du ministère chrétien? Dans le groupe 1,
on a pensé que le caractère principal du ministère chrétien, c'est de la justice d'abord que de Jésus. C'est-à-dire, entre autres, de servir et de ne pas être servi, et de manifester dans sa propre faiblesse, dans la propre faiblesse du ministère, la puissance de la parole qu'il a.
Manifester dans la faiblesse du ministre la puissance du Seigneur qu'il annonce. C'est très bien. Il faudrait que chacun parle plus fort. Vous avez vu encore autre chose?
Surtout aussi ne pas s'adapter au siècle présent pour annoncer la parole et de ne pas faire de confession, de ne pas altérer, de ne pas risquer d'altérer ce qu'on annonce en espérant mieux l'annoncer par là.
Oui. Et est-ce que tu peux encore redire les trois points au fond que tu viens de souligner? Le premier, c'est les caractères de Jésus-Christ.
Voilà. Être serviteur et ne pas se presser soi-même.
Servir et non pas être servi, comme l'a fait Jésus.
Manifester la puissance de la parole au travers de notre propre faiblesse.
Manifester la puissance de la parole au travers de notre propre faiblesse.
Et ensuite, ne pas chercher à adapter la parole.
Ne pas chercher à adapter la parole au siècle présent, ce qui est une des grandes tentations du jour. La porter telle qu'elle est, ne pas la falsifier comme vous l'avez vu. C'est très précieux, ces réponses. Le groupe 2, Nathalie Richard. Oui, être serviteur de Christ, serviteur des autres, être fidèle dans les petites choses, pour que Dieu puisse nous en confier des plus grandes.
Et puis savoir souffrir comme Christ, pour un vrai vie,
et savoir souffrir comme le Christ a souffert. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de ministère sans cette dimension de la souffrance. Et il y avait encore autre chose? Très bien. Le groupe 3, Marie-Hélène Courtois. Il fallait le ministère chrétien, donc c'est une publication ouverte de la vérité. Porter chaque jour la mort de Jésus, c'est-à-dire vivre vraiment cette mort à soi-même, quotidienne. Voilà un des caractères du ministère. Ne pas perdre courage, persévérer. Regarder aux choses invisibles. Parce que si nous regardions qu'aux choses visibles, nous pourrions être arrêtés. Et que Christ doit être mis en avant dans la prédication. Donc il doit toujours être au centre. Être conscient que nous sommes des vases de terre, ce qui veut dire rester dans l'humilité. Non seulement être humble, mais rester dans l'humilité. Vous aviez encore quelque chose à souligner, non? Oui. Bien. Le groupe 4, Daniel Vaillancourt. Être au service des autres. Avoir une vie à l'exemple de Jésus, ne pas altérer la parole, refuser les cachotteries, les fourberies et manifester la vérité, avoir la conviction que le ministère est la volonté de Dieu, ne pas se prêcher nous-mêmes, mais prêcher Jésus-Christ, ne pas se centrer sur l'homme, ni sur l'Église. Attribuer toute la puissance à Dieu et non pas à nous. Oui. Quelques-uns des caractères qui restent actuels pour un ministère chrétien. Groupe 5.
Nous trouvons que premièrement, c'est important pour nous que de ne pas penser, de ne pas nous penser nous-mêmes, de penser les choses que Dieu veut pour nous. Donc, de donner la gloire à Dieu.
Pas nous prêcher nous-mêmes, mais prêcher le Seigneur, donc donner la gloire à Dieu et non à l'homme. De prêcher non seulement Jésus, mais Jésus ressuscité. de manifester la vie de Jésus, annoncer l'évangile clairement sans l'altérer, ne pas perdre courage, persévérer. Et le groupe 6. Au fond, vous avez touché les mêmes points que les autres groupes. Oui. Oui. Ce qui nous encourage, c'est le travail que le Seigneur peut faire en nous quand on se laisse mourir à soi-même. Oui. Et le groupe 7?
Alors, le groupe 7, nous avons commencé le travail de Seigneur dans nos vies comme ça.
C'était assez fort. Oui. Merci. Bien, nous allons relire simplement ce chapitre. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi, lis donc ce verset à ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède ce texte? C'est cette vérité qui nous a occupés hier, que maintenant, en Christ, nous avons la possibilité de contempler à visage découvert la gloire du Seigneur. Et cette possibilité nous donne, si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, d'être transformés à son image, de gloire en gloire. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit et c'est là la grandeur du ministère que l'apôtre Paul avait reçu. Un ministère de lumière, un ministère plus glorieux encore que celui qu'avait reçu Moïse et qui était pourtant déjà un ministère glorieux. La loi avait été donnée par Moïse avec une grande manifestation de gloire, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ a introduit est de beaucoup plus excellent que ce qui avait été introduit par Moïse, même si cela venait de Dieu. Ce n'était que pour un temps. Tandis que ce que Jésus est venu apporter, c'est pour toujours. Alors, le ministère que l'apôtre Paul avait reçu, ce n'était plus le ministère de la mort ou de la condamnation qu'avait apporté la loi, mais c'était le ministère de la justice, d'une justice qui ne venait pas de nos efforts, mais d'une justice qui nous a été donnée par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus, justice que nous recevons maintenant par la foi. en croyant au Seigneur Jésus, nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Qui est-ce qui est la justice de Dieu? C'est Jésus. Jésus-Christ est la justice. Alors c'est un ministère de vie, parce qu'il apporte la vie, ce que la loi ne pouvait pas nous donner. La loi disait, faites ces choses et vous vivrez. La loi était sainte, la loi était juste, la loi était bonne, mais la loi ne faisait que nous présenter les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, ce qu'il désirait. Mais cette loi trouvait en face d'elle, en face de ses exigences, des êtres faibles, incapables, par eux-mêmes, de répondre aux désirs de Dieu. Alors Jésus est venu. Lui a parfaitement accompli la loi de Dieu. Et non seulement il a accompli la loi de Dieu, mais il a voulu manifester sa sainteté et sa justice en acceptant de prendre notre propre faiblesse. Et non seulement notre faiblesse, il est venu dans une chair semblable à la nôtre, une chair ressemblant à celle du péché, quoique lui-même était sans péché, mais une chair qui était soumise à toutes les conséquences du péché. Il a été dans la faiblesse, il a connu les angoisses, il a connu les souffrances, il a connu la soif, il a connu la faim. Le Seigneur a revêtu vraiment notre condition humaine. Et ayant revêtu notre condition humaine, il a consenti, dans cette condition humaine, à prendre aussi la culpabilité de l'homme, notre péché, pour que ce péché soit expié et que nous puissions comprendre la sainteté de Dieu. Dieu ne passe pas sur le péché. Et même quand le péché est sur son Fils unique, sur son bien-aimé, qu'il a honoré et qu'il a glorifié en toutes choses, eh bien, Dieu a détourné la face. Dieu ne passe pas sur le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, voulant porter nos péchés, a dû mourir pour nous sauver. Et c'est ainsi et qu'il a ôté le péché du monde, parce que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de rémission de péché, il ne peut pas y avoir de pardon. Et ce ministère de l'esprit maintenant, ce ministère de justice, Paul l'avait reçu par la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas parce que c'était un méritant qu'il avait été choisi pour ce ministère, mais vraiment par la miséricorde de Dieu. Dieu m'a fait miséricorde. Et si j'ai ce ministère, qui est un ministère plus glorieux que celui de Moïse, eh bien, c'est uniquement en vertu de la miséricorde divine. La miséricorde m'a été faite. Et sachant cela, eh bien, nous ne perdons pas courage. Parce qu'au fond, Paul réalise l'amour immense de Dieu. Depuis quand Paul était-il aimé? Depuis toujours. Il n'a pas été aimé depuis sa conversion sur le chemin de Damas. Il était aimé depuis toujours. Quand il était même blasphémateur, persécuteur et outrageux, Dieu l'aimait déjà. Et c'est cela qui est tellement bouleversant. Quand il était encore dans les entrailles de sa mère, Dieu l'avait choisi. Et mieux encore, avant la fondation du monde. Il était prédestiné à la gloire éternelle. Alors, comment, en sachant ces choses et en vivant de ces vérités, pourrions-nous perdre courage? Mais si ces choses sont si merveilleuses, si ce salut est si grand, alors notre attitude, elle nous sera décrite au verset 2. Nous rejetons maintenant les choses honteuses qui se font en secret. Qu'est-ce que ce sont ces choses honteuses qui se font en secret? Il y a dans l'Épître aux Éphésiens un verset qui peut vous éclairer. Les choses honteuses qui se font en secret, bien, ce sont les incroyants ou les païens, ceux qui ne se soucient pas de la loi de Dieu et qui les pratiquent. Et nous ne devons avoir aucune part avec ces choses. C'est pour ça qu'au verset 8 du chapitre 5 des Éphésiens, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire, même de mentionner les choses qui se font en secret. Alors, nous rejetons entièrement ces choses honteuses, ces choses qui ne peuvent pas se manifester dans la lumière. Et notre conduite, eh bien, ne sera pas une conduite astucieuse, une conduite rusée. Nous sommes dans la clarté du Seigneur et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous ne la falsifions point. Nous en restons, quel que soit l'état du monde, à ce que dit la parole de Dieu. Cette parole conserve sur nos cœurs toute son autorité. Mais vous savez qu'une chose est très frappante, c'est qu'aujourd'hui, les choses qui se faisaient en secret dans le passé, elles se font maintenant dans la lumière. Et c'est cela qui est bouleversant. Autrefois encore, ces choses se faisaient en secret. Mais ce qui manifeste que réellement nous sommes arrivés dans les dernières heures de la fin des temps, c'est que ce qui se faisait en secret, se fait dans la lumière. Ce qui était condamné, même par les tribunaux légaux, eh bien, se trouve maintenant accepté, justifié. Et c'est quelque chose de presque incroyable. Les gens aujourd'hui ne veulent plus se marier, hein. Mais les homosexuels réclament la bénédiction de leur union. Et il y a des églises qui le font. Vous rendez-vous compte? Le mariage, selon l'Écriture, non, on n'en veut plus. Mais ces mariages qui sont des abominations, enfin, ce sont des abominations, eh bien, eux veulent la bénédiction divine. Nous arrivons réellement à l'apostasie. Le rejet ouvert de toutes les vérités du christianisme, tout en prétendant croire encore au même Dieu au même Seigneur. Quel Seigneur ! Donc nous ne voulons pas altérer la parole de Dieu, mais nous voulons publier la vérité et le caractère de la prédication chrétienne aujourd'hui, c'est réellement la publication de la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle a été vécue et incarnée par qui ? Par Jésus. La vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas un ensemble de dogmes, ce n'est pas des doctrines, ce ne sont pas des doctrines. La vérité, c'est une personne. Et nous avons à publier la vérité, c'est-à-dire nous avons à présenter, comme vous l'avez souligné, la personne du Christ, qui doit être au centre de toute prédication. Christ, non pas seulement sa vie exemplaire, Christ crucifié, mais non pas seulement sa mort, mais comme vous l'avez dit aussi, Christ ressuscité. Et comme nous pourrions l'ajouter aussi, le Christ qui revient, car il revient. Et quand on prêche, nous devons nous adresser à la conscience des gens. Nous ne devons pas nous occuper d'autre chose. Exalter Christ dans toute prédication et nous adresser à la conscience de tout temps. C'est là notre seule recommandation. Nous adresser à la conscience. Et vous savez, la conscience peut être touchée. Ça ne veut pas dire que la personne sera sauvée. Donnez-moi un exemple d'un homme qui était en présence de celui qui était la vérité. Oui, mais qui a eu la conscience touchée, le homme riche aussi, mais Pilate, comme vous l'avez dit, hein. Pilate, sa conscience criait quand Jésus était devant lui et qu'il lui disait qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Sa conscience criait et il dit, qu'est-ce que la vérité ? Il avait devant lui celui qui était la vérité. Et sa conscience le lui a dit. Sa femme le lui a confirmé. Mais est-ce qu'il a écouté sa conscience? Quand vous entendez des gens qui disent, mais moi, mon Dieu, c'est ma conscience. Mais votre conscience ne vous sauvera pas. Votre conscience peut vous dire bien des choses, peut même souligner que telle et telle ou telle chose est juste. Mais ce n'est pas simplement de reconnaître que cette chose est juste. Pilate a reconnu au fond que Jésus était juste. La femme de Pilate lui a dit, n'ai rien à faire avec ce juste. Mais sa conscience ne l'a pas sauvée. Et pourtant, nous devons nous adresser à la conscience. Verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et je voudrais que vous soyez impressionnés par cette parole. Il y a des gens qui périssent. Et est-ce que c'était là la volonté de Dieu? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y en ait qui périssent. Parce qu'il a donné Jésus. Alors, pourquoi ces gens périssent? Parce qu'ils refusent de croire. Parce que ce message qu'ils entendent dans l'Évangile leur paraît une folie ou un scandale, comme il l'est dit dans le chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens. la parole de la croix que nous prêchons, qui est pour ceux qui sont sauvés la puissance de Dieu, qui nous apporte le salut, à d'autres, cette parole paraît une folie. La folie aux saints. Pour les sages, mettre sa confiance dans un crucifié, acclamer ce crucifié comme sauveur, mais c'est une folie. Alors il y a un refus. Et puis, pour les juifs, c'était un scandale, parce qu'il était dit « maudit quiconque est pendu au bois ». Alors, notre tentation aujourd'hui, dans la prédication, puisqu'on sait qu'une telle prédication, au fond, l'évangile, est une folie, il faut rendre sage cette folie. Et c'est là la tentation. Et puis, puisque nous savons que c'est un scandale, ben, il faut diminuer le scandale. Et si on pouvait le diminuer, ce scandale, en ayant la puissance de faire beaucoup de guérisons, peut-être que ça passerait. Alors il y a cette recherche aujourd'hui extraordinaire des miracles. Et c'est très, très frappant. Les Juifs, ce qu'ils voulaient, c'est des miracles. Et quand ils sont venus à Jésus, ils ont dit, mais quel miracle fais-tu donc afin que nous te croyions? Et malgré qu'il eut fait tant de miracles, ça n'a pas été la vraie foi qui les a manifestés. Alors en définitive, il y a manque de foi, hein, on périt parce qu'on refuse de croire, c'est pas de l'ignorance. La connaissance a été donnée, mais qu'est-ce que l'on s'aperçoit? Les gens qui périssent, c'est l'apôtre Paul qui le dit au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, les gens qui périssent et qui seront tout prêts à recevoir la puissance d'égarement qui vient sur ce monde, ce sont ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce n'est pas un manque de connaissance, mais c'est un manque d'amour. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, mais ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés. Si notre évangile est voilé, encore, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, donc manque de foi, et qui est-ce qui les a aveuglés de cette sorte? C'est le Dieu de ce monde. C'est Satan. Qui a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Toute la gloire de Dieu, on en a parlé ces derniers jours, a été manifestée enfin dans les œuvres de la création. Mais cette gloire de Dieu, qui est l'ensemble de ses perfections invisibles, ont été manifestées d'une façon plus extraordinaire encore sur le visage de Christ, sur le visage du Christ, dans la personne du Christ. La gloire de Dieu, qui est l'ensemble de ses perfections, a été manifesté. De sorte que c'est lui que nous devons contempler, et comme nous l'avons vu plus haut, en le contemplant, le Saint-Esprit peut nous transformer à son image. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Quand nous savons qu'il est lui, le resplendissement de la gloire de Dieu, que pouvons-nous prêcher sinon Jésus-Christ? Et nous disons, vous serviteurs, à cause de Jésus. Jésus s'est fait le serviteur et nous avons maintenant à devenir serviteurs. ses serviteurs. Et l'œuvre, quand elle s'accomplit, quand la lumière se fait dans une âme, est-ce que c'est le prédicateur qui l'a fait? Non. C'est comme à la création. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Et on chante dans cette cantique, je ne sais comment la lumière éclaira tout mon cœur. C'est Dieu qui, comme au jour de la création, eh bien, fait luire sa lumière tout à coup dans nos cœurs. Tout à coup, on est éclairé. Et quand cette lumière vient, eh bien, lui-même aussi fait resplendir cette connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ qui vient se refléter dans nous. Alors, le plus grand moyen d'évangélisation, au fond, c'est le témoignage individuel des chrétiens. Mais ce grand trésor, ce ministère, est-ce que nous l'avons par nous-mêmes? Ce trésor, nous l'avons dans un vase de terre. Pour quelle raison? Pour qu'on ne puisse jamais faire de confusion. Et pourtant, c'est toujours cette confusion que l'on fait. On attribue toujours quelque chose à l'homme. C'est l'homme que l'on aime. C'est de lui que l'on parle. Et il faut vraiment passer par des humiliations profondes pour que ce sentiment soit détruit. Il faut que le monde se rende compte à quel point le vase est un vase de terre. Et que s'il y a eu quelques manifestations de l'excellence d'une puissance qu'on n'attribue plus cette puissance à l'homme, mais à Dieu. Alors le vase de terre doit être vraiment brisé pour qu'on n'attribue plus rien à l'homme. Et voyez-vous, ce n'est pas de dire ces choses qui comptent, mais c'est de devoir les incarner. Et les incarner, ben, c'est vivre une heure de grande humiliation, où l'on perd vraiment la face. Mais on a dit que le ministère du chrétien, le ministère chrétien devait être semblable au ministère du Christ. La fin du ministère du Christ, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était crucifié. Donc, il a perdu la face. Le Seigneur, lui, il a perdu la face. Mais moi, je ne voudrais pas perdre la face. Et je dois perdre la face. Et il faut que ça arrive, tôt ou tard. Il faut qu'il y ait cette déception. C'est pas quelque chose que l'on peut prêcher. C'est quelque chose que l'on doit vivre. Et que l'on doit vivre en face d'un monde qui attendait tout autre chose. Au fond, on attendait tout autre chose de Jésus. Puis voilà ce qui lui arrive. Alors nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, en quelque sorte, ce que Paul dit ailleurs, je meurs chaque jour. La signification profonde de notre baptême, qui est notre identification au Christ dans sa mort. Donc on ne peut plus rien attendre de nous. Pour que seule la vie de Jésus, qui est cette vie de résurrection, qui n'a été connue qu'après cette mort, soit manifestée dans notre corps. La vie de Jésus, vie de résurrection, non pas une vie humaine qui se serait développée ou sanctifiée, mais une vie crucifiée et qui ne se manifeste que par une résurrection. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Pour que cette vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, eh bien, il faut que chaque jour, ce renoncement à soi-même soit manifesté. Ainsi, la mort agit en nous. Ce n'est pas un texte. Ça doit être une réalité. La mort agit en nous. Et dans ce temps, je le pense d'une façon très particulière, la mort doit agir en moi. Pour quelle raison ? Pour que la vie agisse en vous. Ce sera ça la bénédiction du temps. Pour que la vie agisse en vous, il faut réellement que la mort agisse en celui qui a un ministère et qui croit avoir reçu ce ministère. Dans un vase de terre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie humaine sublimée, mais c'est une vie crucifiée et ressuscité. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Si ce temps a lieu, c'est parce que nous croyons. Parce que nous avons encore cet esprit de foi qui est exprimé par la parole de l'Écriture. Oui, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive, c'est pas peu de commenter, à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, il y a la grande épreuve, mais il y aura une grâce qui sera multipliée, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est ce qui se produira. Alors aujourd'hui, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, dont nous sommes parfaitement conscients, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent, ces afflictions que les uns et les autres peuvent trouver peut-être lourdes, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes nos vies, est-ce que vous croyez ça? Que cette affliction que nous connaissons dans le moment présent, est-ce que vous croyez ce texte? Que cela opère pour nous. Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pour que ce soit vrai cela, qu'est-ce qu'il faut? Regardez à ce que vous voyez. Avoir les yeux fixés sur ce qui se voit? Non. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Si vous regardez aux choses visibles, c'est la déception. Mais vous regardez aux choses invisibles. Et il y en a. Ces choses visibles sont passagères. Et si nous n'avions les yeux que sur les choses visibles, et que même que les choses visibles soient belles, nous savons qu'il y aura après des choses difficiles. Eh bien, nos yeux sont fixés sur les choses invisibles, sur celles qui sont éternelles. Alors, je résume ce qui était dans ce chapitre, qui traite le ministère de la Nouvelle Alliance, ce ministère tellement lumineux. S'il reste voilé, ce n'est que pour ceux qui périssent. Et le serviteur de Christ, c'est un homme qui n'arrive que par la souffrance et par la mort à la victoire. Il n'y a pas eu d'autre chemin pour Jésus, le serviteur de l'Éternel. Sa victoire passée par le chemin de la souffrance et de la mort. Il n'y a pas pour ceux qui servent Jésus un autre chemin. Le serviteur n'est pas plus que le maître, il suffit aux disciples qu'il soit comme son maître. Dans cette première partie, où nous voyons les caractères du ministère de Paul, ce ministère repose sur la miséricorde qui lui a été faite, et c'est ça qu'il remplit de courage. De sorte qu'il est pur de tous les moyens équivoques, son ministère. Ce ministère ne consiste que dans la manifestation de la vérité. Son ministère, il s'adresse à la conscience de tout homme devant Dieu. Et si cet évangile est encore obscur, s'il reste voilé, bien, il ne l'est que pour ceux dont l'entendement est aveuglé par l'incrédulité qui vient de Satan. Et l'objet de cette prédication, comme vous l'avez souligné, c'est uniquement Jésus, le Seigneur. Et même les apôtres ne sont que les serviteurs de l'Église. S'ils sont illuminés de la lumière divine, c'est pour répandre uniquement, non pas la connaissance d'eux-mêmes, mais la connaissance de Dieu. Et dans la deuxième partie, nous voyons la faiblesse et la force des serviteurs de Dieu. Le trésor qu'ils portent, ce trésor de l'Évangile, ils l'ont dans des vases de terre. Pour que la force du message soit attribuée à Dieu. Ils sont exposés à toutes les souffrances, mais ils sont toujours soutenus. Ils sont exposés à la mort, mais qu'est-ce qu'ils possèdent ? La vie. Ils parlent parce qu'ils ont cru, et pas parce qu'ils voient qu'ils parlent. Ils parlent parce qu'ils ont cru. Et leur suprême espérance, c'est la résurrection. Et toutes leurs souffrances font abonder la grâce dans l'Église qui ont béni. En finale, il y aura, après cette phase douloureuse, des actions de grâce pour les délivrances que le Seigneur aura accordées. Voilà pourquoi, au service de Dieu, on ne perd pas courage. Parce que tout ce que perd l'homme extérieur est un gain pour l'homme intérieur. Et que les afflictions du temps présent produisent une gloire éternelle. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te demander que les paroles de ce chapitre que nous avons tant de fois exposé dans la joie, dans la force, à des âmes de plusieurs pays. Nous voulons te demander que ce chapitre, nous puissions vraiment accepter, non plus de le commenter, mais de le vivre, de l'incarner. Accompli dans cette journée, tes desseins à l'égard de chacune de nos vies et apporte toi-même la réponse que nous attendons de ton cœur. En Jésus. Amen.